What is this, Connor?
Easy, easy, old man. She's not hurt?
No.
Not wounded, sir.
It's
been a long time.
Yes, ma'am.
Mi conosci?
Filumena.
Filumena.
Proprio non mi ricordate.
Menose fattissimo. Proprio fattissimo.
Cinéphile, rugbyman, danseur ou gardien d'Ardèche et d'autres galaxies, bienvenue, vous êtes sur Fréquence 7 et vous écoutez Cinémascope, le magazine du cinéma en Sud-Ardèche. Aujourd'hui, comme tous les vendredis, nous sommes en charmante et délicieuse compagnie avec Cathy. Bonjour Cathy.
Bonjour.
René.
Bonjour.
Et Olivier.
Bonjour tout le monde.
Et Sylvain, bonjour.
Bonjour.
Alors aujourd'hui on va parler des films très divers, on va parler de Cocon, de Suzume pour l'honneur, de Dancing Pina de Hawaï, des Gardiens de la Galaxie volume 3 et si le temps nous le permet de Chien de la Casse dont on a déjà parlé la semaine dernière mais peut-être pour en dire un mot supplémentaire, il va y avoir de la diversité.
Gib mal deine Hose. Ich wasch die aus.
Ich finde andere Mädchen manchmal so schön. Ich finde es auch schön, wenn ich den Körper von einem anderen Mädchen spüre.
Oui, c'est 20 secondes. J'ai réduit les bandes annonces à 20 secondes maintenant. Il fait chaud, c'est l'été. 20 secondes donc d'immersion dans le quartier berlinois de Kreuzberg avec Nora, 40 ans, pas tout à fait, 14, qui se cherche, 14 ans, qui se cherche, ambiance à la fois solaire et mélancolique, on l'entend un petit peu dans la musique. Cathy, est-ce qu'on a encore des choses à dire sur l'adolescence qui s'émancipe, qui se questionne pendant l'été? Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est toujours l'été, hein, ça, toutes les questions viennent l'été.
C'est vrai, l'été est propice à la question de l'identité, de l'amour, etc. Ouais, sûrement, les nouveaux sentiments. Ouais. Là, oui, c'est un deuxième long métrage d'une réalisatrice allemande qui s'appelle Léonie Krippendorf. Et c'est vrai, on peut se demander si toutes ces histoires autour de l'adolescence, ces premières fois qui ont été largement explorées dans le cinéma depuis, pourquoi pas, Virgin Suicide de Coppola, de Sofia Coppola, qui ressort d'ailleurs. Au cinéma là, cet été ou juin-juillet là je crois ça peut faire écho et c'est aussi un film à Cocon que l'on a présenté au fameux groupe comité 15-25 dont on a parlé le vendredi dernier et qui a beaucoup apprécié le film parce que ça s'est malgré tout se renouveler. Alors le récit se déroule en 2018 à Berlin autour de Nora qui est une jeune fille plutôt timide qui est entourée de sa sœur aînée et d'une mère souvent absente pour cause d'alcoolisme, on va dire, ou d'amour immodéré pour l'alcool. Elle est souvent livrée à elle-même, Nora. Elle est en quête d'identité sans forcément s'en rendre compte. En fait, elle vit un petit peu sans début d'adolescence. Elle regarde beaucoup ce que fait sa sœur, qui, elle, est beaucoup plus volubile, libre, sûre d'elle. Enfin, c'est un exemple sans vraiment en être un.
Intégrée parmi les...
Ouais, parmi les autres jeunes, où il y a beaucoup de fêtes. Alors l'Allemagne, c'est ça, hein, c'est beaucoup de fêtes. Et voilà, ils passent leur été à pas faire finalement pas faire grand chose. Donc le film il joue sur cette corde sensible, sans spécialement d'excès. On va passer comme ça de quelque chose d'assez cru et assez réaliste, mais bien enrobé quand même avec une belle lumière estivale, à quelque chose d'un peu plus onirique. Et ça, c'est peut-être un peu la facilité de la réalisatrice, mais ça peut paraître borderline et un peu désuet, mais elle va faire cette comparaison entre le papillon, enfin la chrysalide qui va devenir papillon. Bon, alors c'est hyper comme ça, c'est vrai que quand je le dis, c'est assez convenu, un peu plan-plan et tout ce que tu veux, mais il y a quand même une énergie et un attachement qu'on porte au personnage, et notamment à Nora, qui va aussi découvrir son corps, parce qu'il y a quelque chose qu'on ne montre pas assez au cinéma et que ce n'est pas forcément très, très facile à exploiter, mais... Par exemple, les premières règles,
qui sont montrées dans la bande-annonce.
La bande-annonce, je l'ai pas vue, mais ce changement-là, c'est quand même un peu violent. Mmh. Enfin, on sait que ça va arriver, puis un jour ça arrive, et c'est pas forcément montré vraiment au cinéma et les complications que ça peut entraîner derrière.
Sauf dans Carrie.
Oui,
j'y pense.
Tu penses à Carrie, ouais.
Non, mais c'est parce que René a failli aller voir l'exorciste du Vatican. Ouais, mais on n'en parlera pas. Non, pardon, on aurait pu faire une belle transition. Pareil, excuse-moi. Ouais.
Non, mais je t'en prie. Mais bon, voilà, c'est un film qui est quand même, qui se regarde, que les jeunes aiment bien d'ailleurs, et qui se regarde bien, et qui est réalisé avec beaucoup de délicatesse. Et c'est un film à découvrir au cinéma, bien sûr.
Un film à découvrir cette semaine, Au regain d'Uteil Cocon. On continue dans un autre passage à l'âge adulte. Eh bien,
c'était très court.
C'était très très court. C'était une petite porte. Et oui, je réduis. Bientôt, Cinémascope dira 10 minutes. Ce sera la prochaine formule. On n'a pas entendu toute cette musique, notamment, et ces instants chantés par Suzume. Cette jeune fille de 17 ans, elle aussi en quête de sens, Suzume de Makoto Shinkai, qui avait fait Your Name. Cathy, tu es aussi allée voir ce film de...
Alors justement, moi je suis devenue très jeune maintenant avec ce comité 15-25, donc en fait tous les films pour eux, maintenant je les vois. C'est vraiment terrible. Enfin, c'est chouette, hein, c'est pas le problème, mais je suis passée d'un groupe de vieux à un groupe de jeunes, donc c'est plutôt
ça,
sympa.
L'effet rajeunissement.
Ça doit être ça. Enfin, je m'en rends pas trop compte, mais... Ouais.
Le groupe de vieux, c'était dans quel comité?
Non, je ne dirai pas. Non, personne ne dénoncera. Personne ici, évidemment. Alors, Suzume, effectivement, le réalisateur de Your Name et précédemment des Enfants du Temps, qui est un de ses chefs-d'œuvre, hein, c'est le premier film de Shinkai. C'est un film dans lequel il a son sujet de prédilection. Hein, c'est assez similaire par rapport aux deux précédents films, avec une histoire d'amour entre deux adolescents. Alors, Mathieu, qui n'est pas là, me glissait la semaine dernière que, en fait, son idée première au Japon, c'était une histoire d'amour entre deux jeunes filles. Et visiblement, ça n'a pas trop plu. Donc, il a changé son scénario pour que la jeune fille, dont je n'ai même plus le nom, tombe amoureuse. Suzume, c'est le titre du film.
Non, c'est pas grave. Mais...
Ça va pas mieux. Hein. Bon. Suzume soit amoureuse d'un jeune adulte qui s'appelle Sota. Alors, elle est amoureuse de lui. Lui, on ne sait pas trop, mais enfin, en tout cas, voilà. Qu'est-ce qui se passe ?
Non, d'accord. Non. Non, amoureuse de Sota, mais c'était...
Ah, d'accord. Non. Et c'est cette histoire d'amour. Je trouve que c'est pas... Elle flash sur lui, parce qu'effectivement, c'est un très beau jeune homme. Mais lui, on ne sait pas véritablement s'il est amoureux d'elle. Enfin, bon, ce n'est pas forcément le truc le plus important dans le film. C'est que plus à travers leur histoire, ils vont empêcher une catastrophe naturelle. Et le film bascule plutôt dans un road movie sur fond de voyage initiatique pour elle. Un voyage où elle va peu à peu, elle aussi, trouver son identité ou la retrouver et guérir certaines blessures du passé. Donc l'animation, elle est superbe, c'est hyper rythmé. Il y a aussi la musique, parce qu'il y a, alors c'est la J-pop de Radwimps, c'est ça que tu voulais nous faire écouter,
oui,
qu'on n'a pas entendu,
oui,
bah, évidemment, donc qu'on retrouve aussi sur les précédents films de Ching Tai.
Il y a eu aussi de la censure, là. Alors c'était pas...
Ah oui.
Peut-être parlait-il d'une forme de saphisme ou de lesbianisme, entre les lignes, en japonais, mais non. Je sais pas.
En tout cas, c'est beau, c'est vivant, c'est stylé, c'est poétique, surtout aller voir Suzume.
Suzume à voir donc cette semaine au navire à Aubenas, au Teil,
ouais,
et au Vence.
Non mais quand je pense que j'ai pas le prénom de la jeune fille alors que c'est le titre du film, là c'est vraiment ça va plus du tout.
C'est pas grave, on va continuer dans la spiritualité, dans quelque chose d'un petit peu intellectuel.
Depuis près d'un siècle, deux petits villages du sud de la France se livrent une impitoyable guerre de clochers.
Ok, ça va, j'ai compris.
Il a sorti le maillot du grand-père. Il sent pas bon, les gars.
Et là, je dis stop ! On met une branlée à ces gros cons de troupeau ! Dans 3 mois, on...
Ah ! Mais mon Dieu, mais que se passe-t-il avec ces bandes-annonces ? Mais en fait, tout est dit, on a un petit peu le... Enfin, tout est dit, je ne sais pas du tout. Non, mais voilà. On a le climat.
Voilà.
Alors, René, pour l'honneur.
Pour l'honneur. Pour l'honneur, c'est donc un film, comme vous l'avez entendu, qui nous plonge au cœur de ce qu'on appelle parfois le rugby de village, dans lequel l'affrontement, la rivalité entre deux gros villages ou deux petites villes se cristallise autour de leur équipe de rugby. Alors, ici, la rivalité est entre Troquepont-sur-Vézère et Tourtour-les-Bains, deux villages évidemment fictionnels, qui sont contigus et qui sont donc dans le sud-ouest. La première de ces deux bourgades a de la chance parce qu'elle bénéficie des largesses de l'entreprise Lalanne, qui est une entreprise qui est dirigée par l'héritier du nom, un jeune type sans scrupules et méprisant. Au contraire, la ville de Tourtour se concentre autour du bar-restaurant de Marco Bianconi, incarné à l'écran, et fort bien d'ailleurs par Olivier Marchal, qui est par ailleurs le dirigeant de l'équipe de rugby locale. Alors, la rivalité des deux villages va atteindre son apogée chaque année lors du derby, que Troquepont remporte immanquablement parce que, comme je vous l'ai dit, il bénéficie des subsides de l'entreprise Lalanne, alors que l'équipe de Tourtour-les-Bains est réduite à la portion congrue.
Serait-ce une critique du capitalisme ?
Absolument. C'est un film éminemment politique.
On sent Gramsci, là.
On le sent. Ouais,
mais ouais. On sent, oui. Mais cette année, les choses vont bouger avec l'arrivée de plusieurs familles de demandeurs d'asile. D'un côté, le cynique François Lalanne tente d'exploiter la défiance, pour ne pas dire le rejet d'une partie de la population envers ses exilés. D'un autre côté, Marco Bianconi, qui lui et d'autres autour de lui rejettent le racisme, en même temps qu'il rejette le racisme, il repère parmi ces nouveaux arrivants, que sont ces demandeurs d'asile, 3 hommes qui, par leur qualité athlétique, leur sens du jeu, pourraient bien renforcer son équipe de rugby.
Aïe.
Voilà, c'est shakespearien tout ça. Et donc, le film tourne autour des efforts du dirigeant de l'équipe de rugby de Tourtour pour intégrer ses joueurs, venus d'ailleurs à l'équipe dont il a la charge. Et plus généralement, le film tourne autour des réactions des villageois positives ou négatives vis-à-vis de ces demandeurs d'asile. Mmh. Alors, je suis partagé à propos de ce film. D'un côté, vous avez bien compris qu'il ne s'agit pas de Citizen Kane. On a droit à beaucoup de clichés, de situations convenues, et cela dès la première scène. « Ils vont nous voler nos emplois, ils viennent pour la sécu, etc. etc. » On a tous les poncifs qui tournent autour du rugby amateur. « Le rugby, c'est une affaire d'homme. La troisième mi-temps, c'est sacré. » L'entraîneur se doit de gueuler. En toutes circonstances, il faut qu'il gueule. Il doit faire appel à la virilité de ses joueurs. Tout se situe en dessous de la ceinture. Mmh. Et puis, il y a toute la litanie des vannes qui tournent autour de ce petit monde du rugby de village. Voilà. Enfin, c'est un film qui avance, il faut bien le dire, au prix de scènes qui sont quand même plutôt invraisemblables. je n'entrerai pas dans les détails de peur de trop en dire et
oui,
de gâcher.
Ne dévoile pas.
Voilà, et de gâcher le plaisir de ceux qui vont aller voir ce film. Mais non, et là, je vais retourner la crêpe. En fait, c'est un film qui donne l'impression d'être la transposition d'une bande dessinée au cinéma. Je reviens à ce que disait Olivier il y a quelques semaines ou quelques mois à propos d'Astérix. Dans le film, les critiques de cinéma ont critiqué, tu le disais, le fait qu'il y avait beaucoup de clichés, de poncifs dans le film. Mais ils y sont dans la bande dessinée et là, personne ne trouve ça anormal. Vous voyez ce que je veux dire ? Personne ne va vous dire « Ah, mais Astérix, c'est que des poncifs, c'est que des poncifs !» Mais bon, voilà, quoi. C'est quand même un succès énorme.
Et oui, mais l'imagination fait le trait d'union entre ces petits pointillés.
Ouais, peut-être. Alors, en tout cas, il y a ça. De notre côté, quand même, c'est un film que je trouve assez sympathique. Parce qu'il est résolument antiraciste, avec des personnages attachants, comme ce personnage, le dirigeant incarné par Olivier Marchand, je l'ai dit fort bien. Un film qui fait une large place aux femmes, d'ailleurs, dans différentes scènes. Un film résolument optimiste, j'ai envie de dire, qui, à défaut d'être un bon film, c'est évident, au sens purement cinématographique du terme, là, il n'y a pas de confusion possible. C'est un film qui fait du bien par son optimisme, je l'ai dit, en cette période de grande morosité. Un film qui s'efforce de montrer que l'intégration des demandeurs d'asile est possible. En ce sens, c'est un film à la fois divertissant et peut-être utile.
Eh bien, écoute, merci René, merci Philippe Guillard pour ce film, pour l'honneur, qu'on ira voir sans doute cette semaine à Rosières, à Ruyons ou au Navire d'Aubenas. Eh bien, puisque le cinéma, c'est la diversité, on va imaginer une rencontre entre ces rugbymen et l'esprit de la danse, si ça fonctionne.
You go for beyond the control.
Don't be frightened of me.
Tu dois aller jusqu'à la perte de contrôle. C'est ce qui est dit dans ces quelques mots du documentaire Dancing Pina de Florian Heinzen-Ziob que tu es allée voir, Cathy. Un petit mot là-dessus.
Un petit mot dessus parce que je n'ai pas fait ma bonne élève et j'ai un peu zappé ce film dans la liste pour tout dire, pour tout raconter. Mais en tout cas, c'est un documentaire... alors, vous vous souvenez que Wim Wenders avait fait un magnifique film sur Pina Bausch, donc cette danseuse allemande sur une ère danse contemporaine, mais vraiment très... très singulière en fait. Enfin, c'est vraiment une artiste, une artiste à part entière, une magnifique artiste. Donc, il avait fait ce documentaire Wim Wenders sur elle. Il y avait aussi sur les rêves dansants de Pina Bausch aussi un autre documentaire qui était très chouette où des jeunes reprenaient une chorégraphie, retravaillaient une chorégraphie dans des spectacles de Pina Bausch. Là, c'est un peu le même principe, sauf que c'est une des partenaires et danseuses et amies de Pina Bausch qui... en Allemagne, monte avec une troupe en spectacle, mais avec des gens qui viennent un petit peu de l'Europe ou même plus loin. Et en parallèle, en Afrique, et au Sénégal là en particulier, mais avec des artistes africains qui n'ont pas forcément cette culture de la danse-là contemporaine, en tout cas, ils montent en simultané le même spectacle. Et donc ça donne des effets, on est sur le processus de création, trouver le bon mouvement, essayer de reproduire le souhait de Pina Bausch initial. On est dans ce process de création avec beaucoup de questionnements. C'est hyper bien. Enfin, voilà, c'est si on aime la danse, qu'on aime ou pas Pina Bausch, en tout cas, mais enfin, moi, j'incite tout le monde à aller découvrir le travail de cet artiste et de cette danseuse et cette femme. Et vraiment, le film sert complètement la cause. Et donc, surtout, faut pas hésiter. Si le film passe proximité, il faut aller le voir.
Ouais, alors cette semaine, il est à Rosières. Uniquement, je ne sais pas si les autres salles vont le programmer, mais c'est vrai que c'est une expérience toujours extraordinaire de se confronter à ça, au mouvement, qu'on fait tous, parce qu'on est tous finalement danseurs dans sa vie.
Ouais.
Même si on ne le fait pas dans un atelier ou quoi, on est tous danseurs, on est tous confrontés à ce que c'est que, effectivement...
Et là, sur le corps, ouais, justement, et bon, je pense que je ne m'avance pas trop pour, en disant qu'il sera probablement aux prochaines rencontres du cinéma d'Europe.
Oh, vous avez bien entendu.
Dans tous les cas.
Pina Bausch est extrêmement inspirante. Hein. Ouais. C'est son travail et sa personne, et puis son école, entre guillemets, c'est quelque chose de très important.
On continue avec Mélissa Drijard. Hawaï. Que tu n'as pas. C'est pas grave. Décidément, là, il y a quelque chose sur la bande-annonce. Peut-être il faudrait imaginer la bande-annonce. On va nous-mêmes sonoriser. Poum, 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 poum. C'est la fin du monde. Une ogive nucléaire arrive. Oh, attention. Voilà, ça, c'est le début.
C'est le tout début, exactement.
C'est pas Hawaii police d'État, quoi. Pas du tout.
Non, okay. Non, pas du tout. Pas du tout. Je sais pas. Alors, voilà. Eh bien, écoute, une grande bande d'amis. Il y a 4 filles et autant de garçons, en gros. Ont l'habitude de se retrouver une semaine par an... à Hawaï, parce que l'un d'entre eux est propriétaire, exploitant d'un hôtel à Hawaï. Donc voilà, c'est devenu une sorte de rituel, une liturgie amicale. Voilà. Donc ils se retrouvent à Hawaï dans un cadre idyllique, n'est-ce pas ? Tout le monde voit ça. Et effectivement, alerte sur les télévisions, les sirènes se mettent à retentir dans la petite station balnéaire où ils se trouvent. Et donc c'est la panique générale. Ils s'imaginent donc qu'il ne leur reste plus que quelques instants à vivre. Et dans ces quelques instants, évidemment, c'est le type même de la crise, n'est-ce pas ? Des tas de choses se révèlent, des tas de choses apparaissent, des tas de choses sont dites
qui n'avaient
la vérité éclate à une ou deux exceptions près. Et donc, une fois qu'on a dit ça, on a le pitch, parce que c'est d'ailleurs une assez agréable surprise. Cet événement dure assez peu longtemps, et tout le film consiste en l'exploitation de cette révélation de la vérité, de ces révélations, de ces vérités plurielles. Et moi, ça m'a fait immédiatement penser à un film d'il y a quelques années, Le Jeu de Fred Cavaillé. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Alors, il y a parfois utilité à comparer rapidement deux films, parce que c'est un petit peu comme des silex, comme ça fait des étincelles si on les compare. Dans Le Jeu, l'idée de départ était assez intéressante. Quelqu'un, par provocation, un petit peu comme ça, dit « On va tous poser nos portables au milieu de la table ». Et quand il y a des notifications, mais aussi des appels, des messages, etc., devant tout le monde, on publie le message, la notification, l'éventuel entretien qui pourrait commencer, etc. Et alors évidemment, c'est une apocalypse au sens double du terme, c'est-à-dire destruction, révélation des liens là aussi qui s'étaient établis entre... Des amis, les identités que chacun s'était créées face aux autres, évidemment, sont plus que fissurées par les révélations des portables. Et là, c'est finalement la panique, la crainte de la mort imminente qui joue ce rôle de révélateur, un peu comme le papier tournesol, tourne au rouge dans une solution acide. Enfin, voilà. Bon. Alors... effectivement, la difficulté, c'est que...
C'est vrai que c'est très alléchant, là, ce que tu nous dis, mais est-ce que ça tient...
Eh ben voilà, c'est un petit peu comme avec le jeu, d'ailleurs. Et, alors, évidemment, on peut pas révéler la fin, parce que surtout du film Le Jeu, que je conseille d'ailleurs, ne serait-ce que pour le final. Et là, effectivement, c'est la question qu'on se pose immédiatement. Est-ce que le réalisateur va réussir à relever cette espèce de défi que constitue la vérité, parce que la vérité, il faut la trouver, premier défi. Ensuite, il faut parvenir à la dire, deuxième défi. Il faut ensuite arriver à l'entendre, troisième défi. Il faut accepter de la vivre, cette vérité aussi. Et puis, alors là, en plus, il faut accepter de la vivre ensemble, cette vérité. Donc, multiples défis. Et moi, je ne saurais pas vous dire si le défi est relevé, si l'exploitation est réellement bien faite de cette idée de départ apocalyptique au sens propre. En tout cas, on a une belle équipe d'actrices avec Bérénice Bejo, Élodie Bouchèze, Émilie Kahn, Aïdara, que j'avais déjà vu plusieurs fois, qui sont vraiment des personnages féminins très complets, assez complexes. Et puis en face, des hommes, Nicolas Duvauchel, William Lebguil, Manu Payet, Pierre Deladonchamp, etc. Et puis Thomas Simka aussi, qui oui. Un peu particulier, dont il a trouvé un job assez particulier. Il suffit de se mettre nu et de se faire photographier dans le public avec sa femme. Non, par sa femme. Donc, eux, ils forment un couple. Elle photographe, lui, posant nu en public. Et ils gagnent énormément d'argent à faire ce métier. Ce métier, si on peut dire. Alors, un casting assez appétissant, comme pour le film Le Jeu, où il y avait Stéphane De Groot, Vincent Elbaz, Grégory Gadebois, etc. Je disais. Il y avait déjà Bérénice Bejo. Et donc, effectivement, on a un jeu qui est assez intéressant, mais une forme qui restant très classique hein, dans la mise en scène. Les scènes sont un petit peu attendues, le montage est un petit peu attendu aussi. Je crois que peut-être le film est réussi dans la mesure où... il n'y a ni de happy end, ni de bad end. Enfin, on est au plus près, finalement, de la vie. Une vie, quelle qu'elle soit, en soi, n'est jamais un échec total, une réussite totale. C'est une vie, c'est... Voilà. Je me faisais un petit peu cette réflexion, et je ne veux pas comparer, mais avec... le film Out of Africa, par exemple, qui a toujours fait pour moi la force de Out of Africa, c'est cette fin où, effectivement, on est suspendu, incapable de dire si s'est déroulé deux belles vies ou pas. Enfin, il y a quelque chose de très étrange. Alors, mutatis mutandis, c'est-à-dire en changeant ce qui doit être changé, pourrait dire la même chose de ce film. C'est-à-dire, effectivement, on n'a pas un film aux dimensions d'Africa, bien sûr, mais on a une réflexion intéressante sur l'amitié et sur la possibilité de faire coexister l'amitié et la vérité, quoi. Voilà.
À voir, donc pour essayer de se faire sa propre idée, Hawaï de Mélissa Drijard, cette semaine au navire à Aubenas. Allez, ultime tentative pour sauver la planète, la galaxie, notre bande-annonce, est-ce que c'est possible?
I'm gonna tell you something. I'm Star-Lord. I informed the Guardians.
Mais c'est trop court, c'est trop brutal, ouais, c'est trop... Ouais, mais qu'est-ce que c'est ? Enfin bon, nous avons 1 minute 30 pour terminer l'émission. Les Gardiens de la Galaxie, volume 3 de James Gunn avec Chris Pratt et d'autres. Cathy ?
Oui, les Gardiens de la Galaxie.
On peut aussi parler du chef de la case.
Oui.
Non, mais c'est pas une trente. Bon, de toute façon, je vais pas faire très très long, mais les Gardiens de la Galaxie, c'est le troisième, et logiquement, c'est la dernière hein, de ces personnages qui sont issus du MCU dans le catalogue Marvel. Pour moi, sincèrement, c'est ce qu'il y a de plus enthousiasmant dans le catalogue Marvel, parce que franchement, les Gardiens de la Galaxie, le premier, c'était une super surprise. je me souviens très bien qu'au moment de la bande-annonce, je m'étais dit, mais qu'est-ce que c'est encore ce truc avec un mélange où il y a un arbre qui parle, un raton laveur, une nana verte. Enfin bon, bref, je me dis, mais d'où ça sort ce truc? Qu'est-ce qu'ils nous ont encore pondu? Et honnêtement, c'était une super surprise. Le film... Sur le 1, commencer pratiquement avec un morceau musical et un mec qui dansait, ça commence comme ça. Et donc on plonge directement là-dedans. Là, celui-là commence pratiquement de la même façon avec un autre personnage et un autre choix musical. Bon, les Gardiens de la Galaxie misent énormément sur une bande-son géniale, parce que le personnage de Stan-Lord, qui lui est un terrien, hein, c'est le seul terrien avec son histoire dans laquelle on plonge dans le deuxième opus, on comprend un peu ce qui s'est passé dans sa vie. Et il a son petit, sa petite cassette, enfin son petit lecteur de cassette, voilà, baladeur.
Son petit baladeur audio replay, reverse,
avec
peut-être.
Plein de musique super, donc surtout aller écouter la bande son des Gardiens de la Galaxie, parce que c'est vraiment génial. Et là, ça nous sert encore plein de morceaux. Moi, j'ai pas arrêté de chazamer pendant le film. Histoire d'avoir les références.
S'il y avait une personne avec son portable dans la salle, ouais, c'était Cathy.
C'était moi avec Shazam. Mais c'est tout. J'ai pas pris de photos ni filmé. Bon, voilà. Alors, le film va reposer sur le 3, là, va reposer principalement sur l'histoire de Rocket. L'histoire de Rocket, c'est le personnage Rocket, c'est le raton laveur. Donc, ce qui est amusant, c'est que sur les précédents, il n'arrête pas de dire à tout le monde « mais je ne suis pas un raton laveur ». Voilà. Bon, quoi, je ne vais pas dévoiler le...
Et là, il s'assume, il fait son coming out.
Bah, il fait presque son coming out, mais lui-même, il a besoin aussi de comprendre ce qui lui est arrivé. Et ce qui est intéressant dans le film, c'est que... on va plonger quand même dans tout ce qui est maltraitance animale, parce qu'en fait, on découvre comment il est devenu Rocket, et qu'est-ce qui s'est passé, quelle expérience scientifique il a pu y avoir sur lui pour qu'il en arrive à ça. Donc, on est vachement... on rentre dans cette histoire avec beaucoup d'intérêt, en fait, parce qu'il y a un focus sur lui. Donc, c'est toute l'intelligence du film aussi, puisque, bon, sur le premier, c'est la rencontre entre des personnages très différents. Le deuxième, on est un peu sur Stan-Lord et sa vie. Et là, on est sur l'histoire de Rocket, qui est très, très intéressante. Alors, le film, là, ce qu'il raconte, c'est que les Gardiens de la Galaxie, l'équipe, là, ils coulent un peu des jours paisibles dans leur QG, là, qui s'appelle Nowhere. Et alors qu'il s'occupe de Stan-Lord, qui, lui, est en train de broyer du noir parce que son amoureuse n'est plus, et son amoureuse, c'est Gamora. Il y a un être qui surgit de nulle part et qui les attaque violemment. Donc, en fait, ils vont être obligés de... attaque violemment tout le monde, et principalement Rocket. Donc, pour sauver Rocket, ils vont devoir se reconnecter tous pour résoudre et le sauver.
Voilà. Mais ce que j'ai pas compris, c'est quel rôle a Suzume dans l'histoire?
Bah, elle arrive un peu à la fin, fait juste un petit coucou, voilà, pour voir si tout le monde va bien. Donc ce qu'on peut en dire, c'est que bon, il y a des, ça va reposer quand même sur des petites choses qu'on a vues précédemment dans les autres. Il y a énormément d'humour, c'est vrai qu'on se marre aussi beaucoup. Il y a cette bande son qui est géniale. Le film se perd un peu à un moment, mais enfin, en tout cas, ce qu'on peut faire, c'est remercier. En lisant quelques critiques comme ça de fans, c'est vrai que James Gunn, on peut que le remercier d'avoir mis en scène ces Gardiens de la Galaxie, parce que comme je le disais précédemment, c'est certainement les plus enthousiasmants, les plus drôles, les plus intéressants de tout l'univers Marvel et
de tout l'univers tout court.
Et de tout l'univers tout court, ouais, c'est ça.
Les Gardiens de la Galaxie volume 3, donc chaudement conseillé par Cathy, film de James Gunn. Un mot juste, vraiment quelques secondes, si c'est possible, sur le chien de la casse que tu as vu, que j'ai vu aussi d'ailleurs.
Oui, j'essaie de faire vite, c'est-à-dire que la dernière fois, Mathieu, Cathy, Didier étaient évidemment donné très très envie d'aller le voir. Alors j'ai été le voir en plus avec Jeannot, qui participait à Cinémascope. C'est longtemps qui lui a été le revoir, donc avec moi. Et effectivement, c'est un film tout à fait passionnant. C'est des lieux, une place de village, des immeubles, une lande un peu perdue. Et dans ces lieux, un certain nombre de personnages tentent d'exister. C'est un peu ça. Ont-ils chacun la faculté d'exister ou pas, hein? Un va exister par, tenter d'exister par la parole. Un va tenter d'exister à travers l'amour. Il y a comme ça plusieurs options. Ce que j'ai trouvé particulièrement original et intéressant aussi dans ce film, c'est la bande son, justement. Il y a un artifice qui m'a paru passionnant, c'est que une concertiste, professeure de piano à la retraite, travaille encore beaucoup chez elle, et c'est elle qui fait une grande partie de la bande son du film, en étant bien sûr hors champ, hein. Elle apparaît de temps en temps dans le film, mais la plupart du temps elle est hors champ, et c'est du Fauré principalement, sauf un moment où un des personnages passe chez elle pour récupérer une boîte, et il lui demande de jouer, et elle joue la tempête de Beethoven. Et donc, ce qui arrive dans ce film, c'est que il va se mettre à accélérer, et des événements extrêmement, en fait, brutaux vont complètement. Alors là, c'est la petite galaxie du coin qui va être finalement attaquée. Le film se termine avec, sur un rap d'ailleurs qui est assez intéressant, très poétique en tout cas, de poésie contemporaine assez intéressante. Et on se dit, mais c'est fou ce que le réalisateur et les acteurs ont réussi à me faire vivre avec aussi peu de moyens. Il y a quelque chose là d'assez extraordinaire. Moi, j'en suis sorti assez secoué, parce que c'est très fort, puisqu'il est vraiment question de la faculté d'exister ou pas, ensemble ou tout seul. Et voilà. Et avec, effectivement, des événements assez brutaux.
Ouais, mais tu as très bien fait. Effectivement, tu as commencé à parler des lieux, et c'est vrai qu'il y a une atmosphère, une ambiance assez curieuse qui se dégage de ces lieux qui sont des lieux vivants et à la fois vides complètement, qui sont vidés. Ouais. Il y a pas de passants, il y a pas de figurants dans les rues. Il y a que ça. Ce qui donne vraiment une dimension presque surréaliste à quelque chose qui est très réaliste et très proche de tous les affects. C'est vraiment un film que je vous conseille également, Chien de la casse, qui est, je pense, encore au Navire et dans d'autres cinémas. Voilà, mais c'est comme ça que ça se termine. C'est comme ça que ça se termine, avec beaucoup de retard, mais voilà, on n'en dit pas plus. On se retrouve vendredi prochain. D'ici là, allez voir des films, mais pas tout à fait vendredi prochain, pas tout à fait, parce qu'on ne sait pas. En tout cas, on se retrouve un de ces vendredis. Et si vendredi, vous avez très 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 envie de nous écouter, vous pourrez nous écouter en replay. Voilà. Merci à vous. Merci Cathy, merci Olivier, merci Sylvain. À bientôt, dans tous les cas.